Radio 1, premier sur l'info, le journal.
Et on retrouve tout de suite Tamara Saintis pour votre journal d'actu complète. Il est 7h30 sur Radio 1. Bonjour Tamara.
Bonjour Damien, bonjour à tous. Au sommaire de ce journal, les rumeurs de bascule d'élus entre le Tahuera et le Tapura. Jeudi, lors de la session du collectif budgétaire de l'Assemblée, les amendements très onéreux ont afflué et l'opposition ne s'est pas privée de faire des remarques acides. Il sera également question du nucléaire. Édouard Fritsch a renoncé à déplacer la stèle de Moruro Aitato. Dans cette édition, Radio 1 vous présentera également une historique détaillée de l'indemnisation des victimes des essais nucléaires. C'est un vrai parcours du combattant, vous l'entendrez. Et puis nous terminerons par une présentation du gala Haut en couleur que préparent les 700 élèves du conservatoire pour ce soir à Toata.
On démarre ce journal avec de la politique à l'Assemblée. L'opposition accuse les élus Tahuera de jouer à se vendre.
En effet, l'examen du premier collectif budgétaire s'est voté jeudi sur fond de rumeurs de bascule d'élus entre le Tahuera et le Tapura. Un premier amendement a fait bondir les élus, celui déposé par Evan Saoumani, le Tavana flossiste de Moréa, qui demande d'augmenter de 1,27 milliard de francs le montant alloué à la construction du lycée de l'île Sœur. Cet amendement a finalement été refusé par la majorité. Pourtant, quelques instants avant de passer au vote, Evan Saoumani ne cachait pas que l'issue de son amendement pouvait peser sur son avenir politique.
Je suis content, hein. Je suis satisfait. Surtout le projet de Moréa, c'est énorme, hein. On n'attend que ça.
Est-ce que ça va te convaincre de rejoindre le Tapura?
Ah, je ne peux pas te dire, hein. Comme il reste encore 2 amendements de Moréa, là, on verra.
Et si tout est voté?
Là, il faut que je réfléchisse.
T'as pas déjà vu à Etabas?
Si, c'est déjà vu, mais c'est pas tout le monde sont d'accord. Mais il faut attendre un petit peu. Tu sais, pour une somme de 2 milliards, c'est énorme pour Moréa, hein. Ça fait longtemps qu'on met Moréa, ils attendent que ça.
Est-ce que 2 milliards, c'est ce que pèse Moréa pour rentrer dans le Tapura?
2 milliards, mais c'est quand même énorme pour Moréa, hein. Mais j'attends toujours soit réalisé le projet, hein. C'est ça. Après, on verra.
Et quelques heures plus tard, les élus des Raromatei, Rudolf, Jordan, Patricia Amaru et Thomas Moutam ont eux aussi déposé un amendement pour des travaux de l'aérodrome de Maupiti d'un montant de 1,5 milliard de francs. La représentante Tapura, Lana Tetuanui, a affirmé qu'il était impensable de sortir autant d'argent du budget à l'heure actuelle. Après quoi, le leader de l'UPLD, Oscar Temaru, s'est permis une remarque assez directe.
Je crois que madame la sénatrice n'a rien compris. Monsieur Thomas Moutam demande 1,5 milliard pour changer de camp.
Voilà, c'est dit. Et puis sachez par ailleurs que cet amendement a également été rejeté.
Justice, à présent, la peine de prison de Jimmy Adam Maere a été réduite de 2 ans hier.
Condamné en première instance à 17 années de réclusion, l'enseignant de 42 ans a finalement vu sa peine réduite à 15 ans hier soir lors de son jugement en appel. Je vous le rappelle, il comparaissait pour avoir tué son voisin de 79 ans au Coupe-Coupe en 2013. À l'époque des faits, il avait expliqué aux enquêteurs qu'il était allé chercher des excuses chez ses voisins qui se seraient moqués de lui.
Édouard Fritsch a décidé de ne pas déplacer la stèle de Moruro Aitato.
Souvenez-vous, cette affaire avait fait grand bruit il y a un an. L'ancien président Gaston Flosse avait annoncé à l'association de défense des victimes des essais nucléaires qu'il comptait déplacer leur stèle commémorative du front de mer de Papeete vers le rond-point de la base marine de Fareute, et ce pour faire de nouveaux aménagements touristiques. Édouard Fritsch, lui, est revenu sur cette décision. Dans un arrêté du 4 juin dernier, l'actuel président a renouvelé pour 9 ans la convention portant autorisation d'occupation du domaine public au franc symbolique. Contacté par Radio 1, le président de l'association, Roland Aldam, nous a expliqué qu'il avait rencontré Édouard Fritsch pour le convaincre d'abandonner ce projet.
Notre contrat, si on peut dire ainsi, allait jusqu'au mois de juin. Et avant d'arriver à la date, quand le gouvernement d'Édouard s'est installé, nous l'avons rencontré pour dire que, bon, peut-être qu'il fallait mieux laisser le truc de Moruro Aitato là où il est, ça ne gênait personne, voilà. Et puis ils ont fait les démarches dans ce sens-là.
Des propos recueillis par Antoine Samoyo.
Et puisqu'on parle du nucléaire, justement, il serait intéressant de revenir sur l'histoire complexe des indemnisations de victimes du nucléaire.
Une histoire que l'on peut qualifier de sans fin et qu'a détaillé mardi au tribunal administratif de Papeete le rapporteur public de l'examen de 2 nouveaux dossiers de demande d'indemnisation des travailleurs du nucléaire. Écoutez le résumé d'Antoine Samoyo.
Il est souvent difficile de s'y retrouver dans le maquis juridique des procédures d'indemnisation des victimes du nucléaire introduites par la loi Morin. Fin 2013, seulement 11 demandes d'indemnisation avaient été accordées sur les 840 demandes reçues par le comité d'indemnisation des victimes du nucléaire, le CIVEN. Des refus qui sont ensuite attaqués devant les juridictions administratives, mais à l'heure actuelle, il n'existe aucune décision de référence tranchée par le Conseil d'État. Depuis l'entrée en vigueur de la loi en 2010, le tribunal administratif de Papeete a été l'une des premières juridictions à annuler le refus du ministre de la Défense d'indemniser les demandeurs. Mardi dernier, le rapporteur public du tribunal administratif de Papeete s'est donc lancé dans une explication détaillée de la position de la juridiction locale. Selon le rapporteur public, l'État procède lors de ces refus à un examen purement statistique basé sur l'utilisation du logiciel Nioche IREP pour apprécier dans quelle mesure l'exposition aux rayons a augmenté ou non le risque de déclarer une maladie radio-induite. Mais pour le tribunal de Papeete, cette méthode comporte d'une part une marge d'incertitude et est d'autre part tributaire de la fiabilité des données sur la dose de radiation reçue. En effet, les données utilisées par l'État pour établir son modèle statistique ont été construites sur celles issues de l'explosion des bombes de Hiroshima et Nagasaki. Une exposition externe, instantanée et à forte dose, assez différente de la situation en Polynésie. Par ailleurs, le rapporteur public a émis des doutes sur la fiabilité des appareils de mesure portés à l'époque par les travailleurs du nucléaire, puisque les dosimètres externes se résumaient à un film photographique dont la sensibilité dépendait de son orientation par rapport aux flashs issus de l'explosion. Enfin, lorsque l'État n'a aucune donnée sur l'irradiation des demandeurs, il attribue une dose forfaitaire par mois de présence sur les sites des essais. Une dose d'un niveau proche, selon le rapporteur public, de la radioactivité naturelle en France métropolitaine.
Et autre information évoquée mardi, en Polynésie, depuis quelques mois, le tribunal ne fait plus qu'annuler les refus d'indemniser. Il contraint l'État à indemniser les victimes.
La position actuelle du tribunal est celle prise lors du jugement du dossier Tamaku, le 23 septembre 2014. Le tribunal n'a pas de position de principe et observe les données personnelles des demandeurs. Le juge estime que l'utilisation du logiciel Nioche IREP est pertinent, mais il lui oppose les fameuses marges d'incertitude et observe la situation des victimes sur les éléments objectif et rationnel. La nouveauté introduite par la décision de septembre 2014, c'est que le tribunal ne fait plus qu'annuler les refus d'indemnisation, il prononce maintenant des injonctions à l'État d'indemniser les demandeurs. Mardi dernier, le tribunal a examiné le dossier de M. Rosy et le rapporteur public s'est dit plus que dubitatif sur l'octroi d'une dose forfaitaire d'irradiation par l'État, alors même que cet électronicien militaire était chargé de mesurer la radioactivité émise par le nuage pendant au moins 3 essais nucléaire. Le rapporteur a donc conclu à l'annulation du refus d'indemnisation et à l'octroi d'une indemnité provisionnelle de 2 millions de francs en attendant une expertise plus précise des préjudices subis par la victime. Pour l'autre dossier, celui de la veuve de M. Fahara, le rapporteur a expliqué que le demandeur décédé d'un cancer du poumon était décrit comme un gros fumeur. Il a donc demandé une expertise à un cancérologue pour recueillir de meilleures données individuelles sur le demandeur. Ces deux dossiers ont été mis en délibéré. La décision du tribunal administratif sera rendue dans 10 jours, mais comme pour tous les dossiers, l'État fera vraisemblablement appel en attendant qu'une position définitive soit prise un jour par le Conseil d'État.
On termine ce journal avec de la culture et le gala du conservatoire qui a lieu ce soir à Toata.
C'est une tradition depuis 30 ans. Chaque année à la même période, les élèves du conservatoire de Polynésie montent ensemble sur scène pour offrir au public une démonstration de leur savoir-faire. Cette année, ils seront 700 à avoir préparé ensemble un spectacle articulé autour du thème de la naissance des arts. 500 danseurs avec, pour les accompagner, une centaine de musiciens traditionnels, mais également une centaine de musiciens classiques. Pour le responsable de la communication du conservatoire, Frédéric Sibar, les deux disciplines cohabitent depuis toujours à Tiperui et s'abreuvent l'une de l'autre.
Ce qu'on va voir sur scène, en fait, c'est un thème qui est lié au concept de l'éclosion de la naissance des arts. Patora'a. Chaque cycle d'études vont représenter chaque stade de la croissance. Nos tout petits représentent les petites graines. Les élèves de haut niveau vont représenter les branches et les fleurs. Les danseurs et les danseuses adultes vont représenter le tronc de l'arbre, et ainsi de suite. Mais au-delà de ça, on a fait travailler également tous nos instruments, nos ukulélés, qui vont reprendre Bora Bora et d'autres airs que la population aime. On a donc également un orchestre classique de jeunes musiciens. Le classique va prendre l'inspiration du traditionnel, et le traditionnel va prendre la rigueur du classique, et ça fait, comment dire, généralement toujours de très très beaux mélanges. En fait, on a toute la vie du conservatoire qu'on livre. C'est pas un spectacle de fin d'année, mais c'est un véritable spectacle à part entière.
Et sachez que la représentation démarre à 18h. Les quelques places restantes seront en vente à l'entrée du stade au tarif de 500 francs pour les enfants et 1000 francs pour les adultes.